Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Sécurité au Burkina Faso, 8 militaires ont été abattus et des autres blessés très tôt ce matin dans une attaque du détachement de Yirgu. Les détails sous peu. Fin de parcours pour des présumés faussaires. La police annonce avoir mis aux arrêts 6 individus spécialisés dans les actes de contrefaçon des documents de véhicules et de corruption. En Tunisie, plus de 5000 partisans du président Kaïd Sayed se sont rassemblés dimanche à Tunis. Objectif, appuyer les mesures exceptionnelles et le coup de force du 25 juillet. Gestion du foncier dans la commune de Samba. Pour la première fois, le maire de la dite commune sort enfin de son silence et donne de la voix. Joseph Dipama est l'invité de la rédaction. Il donnera sa version des faits en fin de ce journal. Très bon après-midi à tous et à chacun. Tout d'abord, cette information qui vient à l'instant même de parvenir à la rédaction d'Omega Media. 8 militaires ont été tués, 2 autres blessés très tôt ce matin dans une attaque du détachement de Yirgu. C'est précisément aux environs de 5h du matin que les hommes armés ont perpétré l'attaque contre le détachement des forces de défense et de sécurité basées à Yirgu dans la province du Samantenga, région du Centre-Nord. À noter qu'une trentaine de terroristes ont été neutralisés le vendredi dernier à Mansila dans la région du Sahel au cours d'une mission aérienne. Rien de reconnaissance. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Et ce matin également, la police nationale a annoncé sur sa page Facebook avoir mis aux arrêts 6 présumés faussaires. Ces individus s'étaient spécialisés dans les actes de contrefaçon des documents de véhicules et de corruption. Ils disposaient d'un bureau dans un quartier de la capitale et y recevaient les victimes. Après avoir donc conclu le marché avec les victimes, ces derniers procédaient à l'établissement de faux documents par imitation des signatures et des cachets contrefaits et à la production de fausses quittances au nom de celles-ci. Au cours de leur interpellation, plus d'une centaine de cachets contrefaits de plusieurs institutions, dont la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes, ainsi que le guichet unique du foncier ont été saisis. Les ouvriers de la mairie centrale étaient également ce matin dans la cour de la Bourse du Travail. Ils réclament toujours haut et fort leur paiement de salaire de plusieurs mois de travail fourni. Dans leur adresse de mécontentement, ils lancent un ultimatum aux maires de la mairie de Ouagadougou pour rentrer en possession de leurs droits. En attendant de revenir amplement sur cette conférence de presse, je vous propose d'écouter le porte-parole des plaignants. Noufé Bamogo est au micro de Valérie Guéry.
Parce que nous n'allons pas accepter qu'un individu, un seul individu, arrive à nuire à l'avenir des futurs enfants de ce pays. Sur les 418 ouvriers, ne serait-ce que 2 enfants par ouvrier, on se retrouve à plus de 900 enfants. Et nous le disons et nous allons l'assumer. Nous attendons ce signal fort. Si d'ici le lundi, nous n'avons pas ce signal fort, si le président du FASO ne fait pas entendre raison à M. Pierre Bewende, l'histoire va s'écrire.
À l'instant, nous fait Bamogo, le porte-parole des ouvriers de la mairie centrale. On s'en souvient, l'étudiante Ina Drabo était assassinée par des bandits le 26 septembre qui ont emporté sa moto. Au regard de la recrudescence des attaques à Rimkieta, les habitants ont donc décidé d'exprimer leur mécontentement afin que les choses changent. Ils ont donc organisé hier dimanche matin une marche silencieuse en hommage aux victimes et pour demander plus d'attention de la part des gouvernants. Le point avec Djamila Topan.
Cette marche silencieuse est un hommage à Ina Drabo, mais aussi une interpellation pour que de tels drames ne se reproduisent plus dans le quartier. Jean-Yves Yao.
Au quartier, ici, nous avons des problèmes au niveau de l'éclairage. Nous avons un manque de voies d'accès. Vous avez remarqué dès le début, le bouillon n'est pas trop ça et la sécurité n'est pas trop renforcée. Nous avons décidé d'organiser cette marche en hommage d'Ina Drabo, tout simplement parce que c'est une amie qui nous est très chère. Et comme on a dit dès le début, c'est la goutte d'eau qui a débordé du vase. Et si nous, la jeunesse de Rimkieta et des alentours, on ne se lève pas pour réclamer la sécurité, et rendre hommage à notre camarade qui est parti si facilement, bon, c'est pas bien.
Ce drame est venu rappeler qu'en plus du terrorisme, il faudrait toujours faire face au banditisme dans nos villes. Cette marche est une piqûre de rappel aux autorités et la population de Rimkieta veut être l'élément déclencheur d'une série d'initiatives citoyennes qui permettront aux habitants de porter leurs préoccupations aux autorités compétentes. Bourayma Drabo, oncle de la défunte.
C'est vraiment une marche qui va donner une alerte aux autorités, qui va donner une alerte au sein même des populations de l'arrondissement et de pouvoir se mettre ensemble et pour trouver des solutions de proximité et à leur propre sécurité.
Ina Drabo n'est pas la première victime du banditisme à Rimkieta, Sawadogo Sakina.
Mais choc que j'ai eu là, ma maman allait pour voir ma grand-mère, mais à son retour, elle n'est pas rentrée. Et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vue. Donc, depuis ce jour-là, j'ai entendu plus de 3-4, mais vraiment, ça m'a trop touché.
Franck Sommé.
Les différentes difficultés que nous rencontrons dans ce quartier sont très nombreuses. On ne peut pas finir de citer.
Le maire de l'arrondissement 8 a rassuré que des mesures seront prises pour sécuriser le quartier. Kassoum Simpore.
Donc, nous allons, en tout cas, au nom de toute la population de l'arrondissement 8, demander l'aide qu'on essaie de voir côté voirie, surtout, et puis l'éclairage.
Au-delà des autorités, certains riverains appellent les uns et les autres à collaborer avec les forces de sécurité. Les habitants de Rimkieta disent avoir été oubliés. En plus de l'état défectueux de la voie, plusieurs espaces verts et des parcelles non mises en valeur servent de quartier généreux aux bandits.
Des mouvements sont menés depuis quelque temps par un groupe de jeunes à Samba qui réclament la transparence dans la gestion du foncier de la commune. Et pour la première fois, le maire de cette commune en sort de son silence et donne sa version des faits. Joseph Odipama s'exprime au micro de Romain Ouari.
Pour ceux qui connaissent Samba, savent que la question foncière dont on entend parler au niveau de Samba ne remonte pas de l'ère Joseph Odipama. Ce sont des problèmes qui remontent depuis les générations passées. Nous avons eu des prédécesseurs qui ont rencontré des difficultés d'appréciation par rapport à des visions de jeunes d'individus qui ont donné des résultats que nous connaissons. Nous avons des prédécesseurs qui ont fait des sessions et qui ont eu des manquements à certains niveaux que nous connaissons. De nos jours, quand nous sommes venus à la tête de la commune de Samba, nous savons que c'est pour résoudre des difficultés afin de permettre aux populations d'être soulagées par rapport à leurs problèmes. Mais nous savions que la question du foncier était à la une. Donc, ce n'est pas des choses qui nous étonnent. Maintenant, quant aux appréciations des uns et des autres par rapport à des difficultés, souvent les gens savent, mais peut-être qu'on induit aussi certaines personnes en erreur parce que la plupart des gens connaissent réellement telle situation s'est passée à tel ou tel moment, avec X ou Y, dans quelles circonstances. Mais on se résume à dire que non, aujourd'hui, il s'est fait quoi? C'est telle personne qui a fait ceci ou cela. Moi, j'aime que les gens aillent toujours à l'information, sachent ce qu'il y a et peut-être se prononcer par rapport à ça.
Et sur le lotissement de la zone Sonatu de Samba, les propriétaires terriens de Tamsin, où devaient être recasés les résidents, disent ne plus accepter l'arrivée de ces populations sur leur territoire. Ils l'ont fait savoir hier dimanche à Samba lors d'une déflation. Leur propos est recueilli par Romain Ouari.
Au départ, c'était vraiment merveilleux parce que nous attendons à ce que les étrangers aussi, ceux-là qui vont déplacer, qui résident plus précisément à Carcin-Véné, ensemble on allait vivre ici. On croyait qu'on n'allait pas avoir de problèmes ensemble. Au finish, à un temps donné, il y a un mouvement qui a commencé, qui veut aménager une zone inondable donnée à ces anges-là. Finalement, les propriétaires terrains de Tamsin ont décidé. Au lieu qu'on va déplacer ces anges-là, venez, qu'on va vivre ensemble là, qu'ils refusent là, on les laisse là-bas, c'est leur droit, on ne les force pas. Et nous, ils nous donnent nos terrains, que la Sonatur vienne arranger nos affaires, nous donner, et puis nous donner autorisation de construction. Nous prions Dieu pour que d'ici fin d'année 2021, là, que vraiment ces problèmes soient résolus. C'est trois points essentiels. Ils ont dit que les terrains sont petits. Pendant que nous, les donateurs de terrain, on a accepté prendre. Deuxième des choses, ils disent que c'est un coin là où c'est bas-fond. Troisième point, ils disent que non, que la Sonatur même n'a pas de papier pour faire ce travail. Ok, donc ça tombe juste. Comme il n'a pas de papier, qu'il laisse, il reste là-bas. Le mouvement va trouver un terrain là où il y a les papiers, les déménager là-bas. Et nous, on va prendre notre zone inondable parce que nous, on est né ici, on a grandi ici, on a cultivé ici. Ils disent que c'est la brousse. Ouais, on est d'accord, on va rester là-bas. Et aussi, il n'a qu'à rester là-bas et que le mouvement là va trouver un terrain là-bas pour les donner, pour qu'on évite les discussions.
Mettre à la disposition de deux lycées de jeunes filles au Burkina des tables bancs écologiques, c'est l'objectif du projet d'appui initié par l'Association pour l'entrepreneuriat vert et le développement durable avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Le projet a donc connu sa phase pratique avec la remise des tables bancs écologiques. Après le collège de jeunes filles de Lumbila le 30 septembre, ce samedi 2 octobre, c'était au tour du juvénat filles Saint-Camille de recevoir son lot de matériel écologique. Outre les tables bancs, l'association EV2D a aussi remis des bureaux pour les enseignants et des poubelles. Les détails avec Judith Traoré.
100 tables bancs, 4 bureaux pour les enseignants et des poubelles faites à base de déchets plastiques. Telle est la composition du matériel entièrement écologique remis par l'Association pour l'entrepreneuriat vert et le développement durable au Journal Fille Saint-Camille. Par cette initiative, l'association EV2D fait sienne cette célèbre citation de Antoine Laurent de Lavoisier, je cite, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Calvin Thiam, président de l'Association pour l'entrepreneuriat vert et le développement durable.
Les déchets ne sont plus des déchets et de pouvoir donc doter les établissements scolaires de tables bancs durables et écologiques et de s'appuyer auprès donc des partenaires tels que l'OIF et bien d'autres partenaires pour pouvoir équiper le maximum d'établissements scolaires au Burkina Faso et dans la sous-région.
Ce don, estimé à 3 500 000 francs CFA, vient soulager et améliorer les conditions d'apprentissage des 400 pensionnaires de cet établissement. Noélie Laloco, sœur directrice du Juvénat Fille Saint-Camille.
Je suis très heureuse en ce jour pour la cérémonie de remise des tables bancs à notre établissement. Cela vient à point nommé pour combler un tant soit peu un déficit partiel. Nous remercions le président de l'Association de l'entrepreneuriat vert pour le développement durable ainsi que ses collaborateurs et aussi leurs partenaires, notamment l'OIF qui a contribué énormément à cette réalisation.
Les bénéficiaires, elles aussi, à leur manière, ont exprimé leur sentiment de reconnaissance au gouvernement.
Hors de nos frontières en Tunisie, plus de 5000 partisans du président se sont rassemblés dimanche à Tunis. Ils veulent ainsi appuyer les mesures exceptionnelles et le coup de force du 25 juillet de Kaïd Saïed par lequel il s'est arrogé les pleins pouvoirs en disant vouloir ainsi sauver la Tunisie. Les forces de sécurité étaient déployées en grand nombre sur l'avenue Bourguiba et formaient une protection autour des manifestants rassemblés devant le théâtre municipal. Et sans transition en sport, la deuxième édition du tournoi de la résilience a connu son apothéose samedi dernier à Bobo. C'est l'équipe de la Sagesse qui s'est adjugée le titre de vainqueur de ce tournoi qui s'est tenu sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le VIH-Sida et les IST ». La correspondance à Bobo du Lasso d'Antoine Bonny.
C'est terminé pour le tournoi de la résilience. La finale a opposé l'équipe de la zone B à celle de la Sagesse de Sarfalao. Score nul 0-0 au coup de sifflet final, il a fallu les tirs au but pour séparer les deux équipes. Et c'est l'équipe de la Sagesse qui remporte la séance. De quoi donner du sourire au capitaine de l'équipe, Arnold Koné.
C'est un réel joie pour nous. On n'a pas remporté de trophée cette année. Nous avons maintenant remporté ce trophée. Et j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de secret, on s'entraîne jour.
Fédérer les jeunes autour d'un message et cette année, la sensibilisation sur le VIH-Sida est le message. Victor Dabiré, promoteur du tournoi de la résilience.
Le VIH-Sida, on en parle moins et c'est la jeunesse effectivement qui est au centre. Cette année, nous sommes donnés pour objectif effectivement de sensibiliser les jeunes en ce sens. Voici pourquoi nous avons assisté également à un dépistage du VIH. On peut dire en quelque sorte le message est passé à travers les différentes interventions et à travers le dépistage, il y a eu également de l'engouement aussi à ce niveau-là.
Le caractère résilient du tournoi motive l'accompagnement du parrain. Tahirou Sanou, secrétaire permanent de l'ARCOP, autorité de régulation de la commande publique.
Ce tournoi est dénommé tournoi de la résilience. C'est une occasion pour nous de contribuer à la mobilisation de la jeunesse pour davantage de résilience afin que nous puissions remporter les victoires sur tous les fronts, à savoir le front sécuritaire, le front de la lutte contre la maladie à coronavirus et le front, je dirais, de la lutte pour l'emploi des jeunes.
32 équipes ont participé à cette compétition. La première équipe est repartie avec une somme de 100 000 francs CFA, 50 000 francs CFA pour la deuxième, 30 000 francs pour l'équipe classée troisième et 20 000 francs pour la quatrième équipe. Antoine Bonny, Bobo du Lasso, Radio Omega.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Depuis des mois, la commune de Samba connaît des mouvements menés par un groupe de jeunes qui réclament la transparence dans la gestion du foncier de la dite commune. Pour la première fois, le maire de la commune, Joseph Dipama, sort de son silence et donne de la voix. Il appelle au calme et au respect des lois de la République. Invité de la rédaction, il répond aux questions de Romain Ouaré.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Alors, un mouvement de jeunes réclame la transparence dans la gestion du foncier de Samba. Est-ce que vous vous reprochez quelque chose dans cette gestion? gestion.
Nous avons toujours géré le foncier de Samba dans la transparence. Je le dis parce que nous, depuis 2016, nous avons toujours communiqué à tous les niveaux, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les journaux, et que ce soit dans les villages. Je me rappelle qu'à 3 reprises, nous avons fait le tour de 27 villages. Nous avons communiqué avec les propriétaires terriens, avec les populations, par rapport au foncier et comment ils doivent faire pour préserver, conserver leurs terres pour les générations futures. À travers ces échanges-là, beaucoup de questions ont été posées, nous avons toujours répondu et nous avons toujours dit à qui veut avoir des informations, quel type d'informations nous en avons. Bon, maintenant, s'il y a d'autres types de transparence, il n'y a pas de problème, nous prenons acte et nous attendons de voir.
Un audit est engagé sur la gestion du foncier dans la commune. Comment avez-vous accueilli cette décision des autorités?
C'est un instrument de mesure dans le cadre de l'administration et nous prenons ça dans le bon sens parce que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à faire face à un audit. Et je peux dire que dans le cadre même des activités de la Sonatur, il y a eu des audits dans d'autres communes puisque l'objectif que nous avons, ce n'est pas de mal faire, c'est de bien faire. Mais comme dans le cadre de l'administration et de la réglementation, souvent on peut interpréter mal un texte. Donc moi je pense que l'audit est bienvenu.
Un autre sujet aussi sur le foncier à Saba, c'est la restructuration. Où nous en sommes aujourd'hui?
Nous nous réjouissons d'avoir osé demander à l'État ou au gouvernement de nous accompagner dans le cadre de la situation de nos zones non loties. Notre aspiration, c'est de voir nos populations vivre dans une certaine sérénité, dans une certaine quiétude et avec un certain nombre de commodités. Mais je dois dire que depuis à peu près 2017, nous sommes dans ce processus et à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la mise en place d'un certain nombre de commissions qui devraient permettre l'encadrement du projet. Nous sommes en phase avec les visions du ministère. Il faut les partenaires pour accompagner le projet parce qu'on sait que c'est un projet qui se chiffre à des milliards. Nous suivons un calendrier qui va nous permettre de pouvoir dérouler cette activité-là. Avec tous les partenaires, les différents ministères, nous sommes toujours sur le bon chemin. C'est une activité qui va voir bientôt le jour sur le terrain.
Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain?
Nous avons fait plusieurs fois les sensibilisations au niveau de ces différentes zones. Au niveau des Saba, nous avons 5 zones qui sont intéressées par la restructuration. Nous avons parcouru toutes ces 5 zones-là pour informer les différentes populations. D'abord, leur dire exactement qu'est-ce que c'est que la restructuration. Et leur dire les avantages de la restructuration et demander leur adhésion. Après ces sensibilisations, je pense que nous avons, au niveau du conseil municipal, pris un certain nombre d'actes, un certain nombre de délibérations, autorisant le maire à mettre telle structure en place ou bien telle structure pour accompagner le projet. Nous avons mobilisé au niveau du conseil municipal environ 140 millions pour les premières activités, l'enquête foncière et les délimitations, et la recherche des différentes trames d'accueil qui vont abriter ceux-là qui vont être impactés par le projet.
Qu'avez-vous à dire sur la gestion du foncier à Saba?
Pour ceux qui connaissent Saba, savent que la question foncière dont on entend parler au niveau de Saba ne remonte pas de l'ère Joseph Dipama. Ce sont des problèmes qui remontent depuis les générations passées. Nous avons eu des prédécesseurs qui ont rencontré des difficultés d'appréciation par rapport à des visions de jeunes individus qui ont donné des résultats que nous connaissons. Nous avons des prédécesseurs qui ont fait des gestions et qui ont eu des manquements à certains niveaux que nous connaissons. De nos jours, quand nous sommes venus à la tête de la commune de Saba, nous savons que c'est pour résoudre des difficultés afin de permettre aux populations d'être soulagées par rapport à leurs problèmes. Mais nous savions que la question du une. Donc ce n'est pas des choses qui nous étonnent. Maintenant, quant aux appréciations des uns et des autres par rapport à des difficultés, souvent les gens savent, mais peut-être qu'on induit aussi certaines personnes en erreur, parce que la plupart des gens connaissent réellement telle situation s'est passée à tel ou tel moment, avec X ou Y, dans quelles circonstances. Mais on se résume à dire que non, aujourd'hui, il s'est fait quoi? C'est telle personne qui a fait ceci ou cela. Moi, j'aime que les gens aillent toujours à l'information, sachent ce qu'il y a et peut-être se prononcer par rapport à ça. Sinon, il est très facile d'accuser, mais il est encore très difficile de prouver. J'entends les gens parler dans la commune de Saba de morcellement des réserves, de morcellement des... Bon, on suit, mais souvent on confond les installations anarchiques à des morcellements des réserves. Nous sommes venus trouver des situations de morcellement, comme on l'a dit, par rapport à des activités d'individus qui ne passent même pas par nous. C'est ma première fois de me prononcer par rapport à cette question. Et je dois vous dire d'abord que ce n'est pas parce que nous, on se résigne ou bien on est coupable à quelque chose. Non, nous sommes des responsables. Nous gérons une entité, nous gérons une collectivité, nous gérons des populations. Là où nous mettons notre pied, nous devons réfléchir avant d'y mettre. Ce n'est pas parce que X ou Y a crié haut et fort que nous devons sortir pour montrer que nous pouvons crier plus. Non, notre rôle c'est de montrer que par rapport à telle ou telle situation, en clair, voici ce qui se passe et voici la conduite à tenir. Il faut que chacun sache pourquoi il fait ceci ou cela. Sinon, innocemment, il y a des gens qui vont se retrouver là où ils ne devraient pas se trouver. Parce que déjà, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de risques. Et je pense que quand on entreprend de faire quelque chose, on mesure la portée avant de le faire. Autrement dit, tout peut nous rattraper à quelque moment que ce soit. Des générations futures devraient réellement soigner leur image, soigner leur façon de voir, soigner leur conduite pour pouvoir être ce que le peuple attend d'elles demain. Il faut reconnaître que nul n'est infaillible sauf Dieu. Nous, aujourd'hui, nous ne disons pas que nous sommes comme la rose, mais nous faisons tout pour refléter ce que le peuple attend de nous. En conclusion, je demande à tous ceux-là, que ce soit des frères, que ce soit des amis, que ce soit des politiciens ou qui que ce soit, de mettre balle à terre et de suivre et d'accepter ce que la réglementation prévoit et de chercher à comprendre beaucoup de choses au lieu de chercher coûte que coûte à atteindre des objectifs personnels. Parce qu'à ce niveau, on pourrait se tromper et souvent l'erreur est fatale.
Merci, monsieur le maire.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Ce journal de la rédaction qui s'achève a été réalisé par Edwige Tiendrebego. Le relais web a été assuré par Yaya Diomondé. Écoutez donc en intégralité ce journal en podcast sur nos pages Facebook et Twitter. Merci de toujours nous suivre.
Radio Omega, l'info en direct.